C'est un rendez-vous les vendredis 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de CISM.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches, dès 18 heures.
Explorer l'infini de l'espace-temps au Salon du Livre de Montréal. Dès le 15 novembre dans les quartiers de la ville et du 27 novembre au 1er décembre au Palais des Congrès, Montréal se transforme en un univers littéraire aux multiples dimensions. Passionnés de romans, de poésie, de bandes dessinées, de littérature jeunesse, plongez dans des mondes fantastiques. Revivez l'histoire et projetez-vous dans le futur grâce à la magie des livres. Découvrez toute la programmation sur salondulivredemontréal.com.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Allô tout le monde, il est présentement midi. Vous êtes sur les ondes de CISM 89.3, La Marge, la radio de la montagne de l'UDM. Vous écoutez présentement le 12e épisode de Bulle d'écoute qui se nomme Connexion et climat. Écoutez, déjà le 12e épisode, ça va tellement vite. Il n'en reste que 3, y compris aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être avec nous ce midi. Je suis Anne-Lie, votre animatrice pour ce midi. Comme d'habitude, je suis entourée de mon équipe de journalistes et co-animateurs Lauriane, Maina, Mélissa et Tristan. Un petit rappel avec nous, c'est l'actualité en toute intimité. On vous fait découvrir nos trouvailles de la semaine et on en discute ensemble. Alors, tous les mardis jusqu'au 10 décembre, inclusivement, on s'emporte du micro du CISM. Vous pouvez réécouter les épisodes de Bulle d'écoute sur Spotify ou Apple Podcast ou même sur le site du CISM.ca. Bon, aujourd'hui, on débute dans la bulle environnement avec Tristan qui va nous parler de la COP29. Ensuite, on parle de la vape et ses méfaits avec Maina. Et on termine sur le festival AIR-IDM avec Mélissa et Lauriane. Moi, j'ai vu... allô tout le monde, excusez-moi, j'ai pas dit allô. Savez-vous que le temps d'écran des enfants aujourd'hui est à faire vraiment peur? Que les jeunes ont grandement changé au fil des années, loin de ce que nous, on a vécu. Il y a des lacunes de langage, de comportement et d'habitudes quotidiennes. Puis ici, on parle pas d'handicap, là. On parle juste de simplement des lacunes qui se sont propagées au fil du temps.
Oui, ben moi, j'en revenais pas là, justement de l'article que tu nous as présenté, ben parler de la presse, justement, tu veux nous en parler.
Oui, exact.
Mais ce que j'ai lu là-dedans, là, c'est vraiment choquant, puis je pense que c'est vraiment préoccupant aussi pour les jeunes. Là.
Ben oui, parce que leur autonomie est grandement affectée et ça devient grave. Il y a une enseignante qui s'est confiée justement à la presse, une enseignante du primaire, a dit que seulement 20% des élèves de première année, pour les Français, c'est 6-7 ans.
Okay. Okay, merci pour la précision.
Seulement 20% d'entre eux qui peuvent peler une banane.
Mais voyons donc. Moi, je pense que c'est parce que ce qui arrive, c'est avec pas juste les réseaux sociaux, mais on est vraiment dans une génération aussi où les parents, ils veulent pas nécessairement prendre soin de leurs enfants, fait qu'ils leur...
Mettre le problème ailleurs.
Peler une banane, c'est...
Peler une banane, ou il y en a qui ne savent pas tenir un crayon.
Que les enfants sont plus capables de même attacher leur manteau. Je lisais dans ton article que c'est les profs qui font tout à leur place maintenant.
Oui, les enfants doivent apprendre aux enfants à s'habiller pour aller à l'extérieur, à la récréation. Ou les enfants s'assoient et ils disent, fais-le. Au lieu de... Fait que là, les enseignants remarquent que les enfants tentent de tourner... ça, là, c'est quelque chose. Les enseignants demandent de tourner une page de livre. Ils tournent comme si c'était un iPad, une page de iPad.
Ouais, ça c'est fou.
Comme ça, ils swipent au lieu de tourner la page.
Mais
les élèves, ils dissocient aussi la réalité de leurs jeux vidéo sur leur tablette avec les enseignants. Je cite l'enseignante qui s'est confiée à la presse de première année. On est dépassé dans l'enseignement des matières parce qu'on est occupé à enseigner le vivre ensemble. Dans le fond, ils enseignent le quotidien. Au lieu d'apprendre les formes, au lieu d'apprendre les lettres.
Plus de place pour la matière.
Exactement. Ça fait peur pour nos enfants, à nous, éventuellement. Fait qu'il faut vraiment rester, il faut attentif à l'éducation qu'on donne à nos enfants, le quotidien. Moi, j'ai travaillé personnellement dans un magasin à grande surface, là. Puis je trouvais ça terrible de voir les enfants se battre pour avoir le téléphone du parent au lieu de faire l'épicerie avec eux.
Mais je pense que c'est aussi aux parents de prendre le temps de retrouver cette éducation-là puis cette discipline-là avec leurs enfants. De non, genre, c'est plus facile de donner une tablette à un enfant, mais il y a besoin aussi de qu'on lui apprenne à qu'il attache ses souliers. Que...
Ben oui, mais c'est vraiment parents. C'est encore notre ancienne génération. Aussi. Genre, tu sais, c'est pas notre génération encore. Mais non, entre les deux, mais tu sais, ouais. Ça reste quand même l'ancienne. Puis je comprends pas comment on en arrive à un point comme ça où justement c'est hyper. Genre, tu sais, cette société est hyper connectée.
Que même les parents sont trop dans les réseaux sociaux.
Ouais. Mais c'est parce qu'il y a trop. Genre, ouais.
Parce que tu peux pas dire à tes enfants de pas aller sur les réseaux sociaux si toi-même derrière, t'as une éducation dans le mode où tu vas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, forcément, l'enfant, il va être attiré quand il va s'ennuyer, il va être attiré par les réseaux sociaux, s'il voit son père faire.
Ouais. C'est aussi, il reproduit
ce qu'il voit, et c'est ça depuis la nuit des temps.
Mais c'est parce que la diversion s'est rendue que c'est notre moyen de se désennuyer. On dirait qu'on a peur d'être confronté à nous-mêmes.
Ouais, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps où justement c'était une maman qui disait hey les parents quand votre enfant il est malade et si vous êtes le genre de parent justement qui donnait pas d'écran à vos enfants, qu'est-ce qu'il fait quand il est malade? Ben laisse-le se reposer. Ouais. Mais moi ça me choque parce que je prends l'exemple de ma sœur, elle adore les livres, elle a appris à lire toute seule, elle arrive à lire même avant de rentrer en première année comme tu me disais tantôt. Et si j'étais confrontée à ça, si je voyais des, tu sais, comme des jeunes comme ça qui swipaient pour changer les pages des livres, franchement, je pense que je me mettrais à rire. Mais un rire nerveux, tu sais, un rire jaune.
J'ai un exemple très, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez jeune, etc. Mais est-ce que quand vous étiez en voiture, chaque enfant, c'est beaucoup d'enfants qui sont à même culture par rapport à ça et tout ça. Mais est-ce que vous, quand vous vous baladez en voiture, que vous allez en vacances avec vos parents? Vous faisiez la course aux gouttes de pluie.
Oh my god, oui,
je faisais tellement ça.
J'allais dire la course avec la lune.
Mais il y avait tellement de jeux que je faisais dans le tour.
Et tu vois, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tant d'écran. Ça commençait, mais on n'a pas été baigné non plus. La fin de notre génération a vraiment vécu le début du développement des technologies.
On n'était pas dedans non plus.
Puis on réussit à être indépendant aujourd'hui, puis à être organisé. Ces enfants-là, là, moi j'ai peur pour leur organisation, leur indépendance.
Mm-hmm. Ouais, et puis fou. La créativité, le développement du cerveau, tu vois, je trouve ça dangereux quand même, tu vois, genre d'être dans la culture, tu sais, de genre tout de suite être genre balayé par la technologie, et puis dès que tu t'ennuies,
Mais c'est la relation parent-enfant aussi que je trouve dommage de perdre. Ça crée. J'avais vu le TED Talk, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est une petite fille de genre 12 ans qui donne le TED Talk, puis elle explique comment un enfant peut vivre du stress quand il essaie d'avoir une réaction de son parent, puis son parent est sur un écran, puis à 2-3 ans, tu comprends pas pourquoi ton parent il réagit pas à tes pleurs ou à tes cris, puis ça peut expliquer aussi pourquoi nos générations sont aussi anxieuses, puis les générations à venir, parce que l'enfant a une insécurité par rapport aussi à cette déconnexion émotionnelle.
Attends, j'ai vu sur TikTok, une mère, elle se confiait, puis elle disait... qu'elle a manqué les premiers pas de sa fille. Parce qu'elle était sur le téléphone.
Ouais. C'est une folerie.
Oui, madame.
Mais pour revenir aussi...
une dinguerie.
Pour revenir aussi sur l'article, moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'il y a une professeure qui disait aussi que ses élèves, ils n'étaient plus capables de reconnaître la différence entre un tigre et un lion.
Oui.
Tellement qu'ils sont trop sur une tablette.
Je ferme les yeux.
Ils sont plus capables. Mais tu sais, c'est grave. Là.
Ouais. Je pense que ça va être un effet de mode. Parce que tu sais, il y a plein de modes justement qui sont en ce moment comme j'ai envie d'enlever tous mes.
Ah, c'est ça, j'allais dire. Ouais. C'est rendu une mode aujourd'hui.
Je pense pas avec les nouveaux trucs de réalité virtuelle, tu sais. Moi, je pense que ça va s'empirer.
Je pense que ça se transforme. La technologie se transforme toujours, elle se renouvelle tout le temps.
Elle va trouver un moyen de reprendre.
Malheureusement,
Je pense pas qu'on pourrait mettre la technologie de côté pour de bon, genre.
Malheureusement, ouais. Fait qu'il faut faire attention, surtout pour moi quand je vais être enfant. Quand je vais être parent. Je vais faire attention.
C'est toujours le canis.
Sorry. Alors maintenant, parlons de la COP29 avec Tristan.
Oui, alors la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP29, vient de se conclure ce week-end à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays marqué par ses vastes réserves d'hydrocarbures et ses ambitions climatiques croissantes. Cet événement, regroupant près de 200 nations, visait à répondre aux défis urgents posés par le réchauffement climatique dans un contexte où les engagements internationaux sont encore loin de limiter le réchauffement sous les 1,5 degrés prévus par l'accord de Paris. Une des grandes discussions là, de cette COP29 était le financement de prêts et de dons des pays développés comme le Canada, les États-Unis, les pays occidentaux envers les pays en développement. Ils devront augmenter leurs prêts et dons justement aux pays en développement de 100 à au moins 300 milliards de dollars par année. Mais ces pays demandaient au moins le double à l'issue de la 29e session de la conférence des parties en Azerbaïdjan. L'accord sur le financement climatique conclu aujourd'hui à Bakou est comme un pansement sur une blessure par balle, a statué Caroline Brouillette, directrice exécutive au réseau Action Climat. Une vague promesse de réalisation d'ici 2035 est une insulte à ceux qui ont déjà perdu leur maison, leur santé et leurs moyens de subsistance, a-t-elle ajouté.
Mais Tristan, il a fallu combien pour soutenir les impacts environnementaux des pays en développement?
Alors, il y a beaucoup d'experts qui estiment que les besoins des pays en voie de développement devraient recevoir 1300 milliards de dollars par an, soit 1000 milliards de plus de ce qui a été adopté pendant cette COP29. À noter que cette COP s'est déroulée encore une fois à Bakou, pays fortement dépendant du pétrole et du gaz, comme il y a un an aux Émirats Arabes Unis. Autre sujet brûlant, la transition énergétique. Malgré des discussions prolongées, les négociateurs ont encore évité de parler d'une sortie des énergies fossiles. Forcément, dans un pays organisateur qui dépend fortement du pétrole, c'est fait sans aucun doute, ils n'en parlent pas. Préférant s'engager à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Cette approche a déçu de nombreuses ONG environnementales. Tergiversation risque de compromettre la possibilité de maintenir le réchauffement sous 2 degrés, a commenté Simone Stiel, secrétaire exécutive de l'ONU Climat, soulignant que les promesses actuelles nous dirigent vers une hausse de 2,5 à 2,9 degrés, ce qui serait catastrophique. Là, genre, il y a eu plusieurs essais justement qui simulaient ce genre d'augmentation, c'est assez drastique. On s'en rend pas compte, c'est que des chiffres, mais c'est drastique. Sur les contributions nationales, chaque pays est désormais prié de soumettre un plan actualisé d'ici 2025, donc l'année prochaine. Ces plans doivent inclure des cibles plus ambitieuses en mettant l'accent sur la réduction du méthane, notamment un gaz à effet de serre particulièrement puissant. Pourtant, nombre d'observateurs estiment que ces objectifs, bien qu'essentiels, restent dépendants d'une volonté politique fluctuante. Une nouveauté notable pendant cette COP a été l'annonce du Climate Finance Action Fund par l'Azerbaïdjan. Ce fonds vise à collecter des contributions des pays et entreprises producteurs de pétrole et de gaz pour financer des projets d'adaptation et de transition énergétique dans les pays du Sud. Selon Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, ce mécanisme pourrait servir d'exemple pour responsabiliser davantage les nations riches. Ceux qui profitent de l'énergie, de l'exploitation des énergies fossiles doivent être au premier rang pour financer les solutions climatiques, parce qu'on sait justement les personnes qui et les pays qui financent ce fonds-là, c'est des pays qui ont énormément pollué pendant la révolution industrielle, au Royaume-Uni notamment, etc. Donc forcément, c'est à eux de soutenir l'effort climatique, ce qui est logique. En conclusion, la COP29 a permis des avancées modestes sur le financement climatique et la solidarité internationale. Oui, il y a eu des discussions, mais 300 milliards, c'est trop peu pour le réchauffement climatique qui est en train, clairement, de passer au second plan. On avait déjà parlé, justement, avec toutes les crises sociales qui sont en train de se passer avec l'Ukraine, etc., où on sent bien que le réchauffement climatique est passé au second plan. Donc, des avancées modestes, mais des problèmes d'argent qui permettent pas d'avancer suffisamment loin. Cependant, il y a clairement un manque d'accord ferme sur la réduction des énergies fossiles, où des mécanismes plus ambitieux restent une source d'inquiétude. Comme l'a résumé Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU, nous avons avancé, mais la trajectoire reste dangereuse en deçà de ce qui est nécessaire pour protéger notre planète et ses habitants.
Puis du côté du Canada, le gouvernement fédéral, il réagit comment à la conclusion de cette COP29?
Le Canada a d'ailleurs salué l'accord financier. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Kibo, a déclaré notamment « Nous ferons notre juste part pour réduire considérablement les émissions mondiales tout en créant des emplois bien rémunérés au sein d'une économie propre. Le Canada comprend sa responsabilité et s'est engagé à présenter un ambitieux plan de lutte contre les changements climatiques pour 2035. Dixit, un pays qui notamment produit énormément de pétrole et puis fait des extractions de sable bitumé en Alberta, donc c'est un peu contradictoire.
Oui, puis le Canada a envoyé beaucoup, énormément de lobbyistes aussi du pétrole à la COP29, ouais. Donc à prendre avec des pincettes.
Mais justement, il y a plusieurs ONG, je rebondis par rapport à ça, il y a plusieurs ONG qui dénonçaient justement que il y avait à cette COP-là notamment énormément de lobbyistes.
1800 lobbyistes.
Ouais, c'est ça. Ah
ouais. Il y a une journaliste qui disait que si les lobbies du pétrole représentaient un pays, ça serait la quatrième région la plus représentée à la COP29. Ouais. C'est énorme.
Ouais. Surtout quand tu penses que après des gros pays comme le Canada, les États-Unis, etc., c'est énorme. Ça a un poids et un impact sur les décisions qui sont prises,
genre oui,
désastreuses. Puis c'est scandaleux dans le sens où tu sais que les COP, au final, l'année dernière, ça s'était passé aux Émirats Arabes Unis. Mm-hmm. Donc là, cette année, c'est l'Azerbaïdjan.
Avant, c'était l'Égypte. Tous des pays hyper dépendants.
Donc ça donne clairement un message négatif. Ouais, ouais. Puis les lobbies, c'était juste genre... Pourquoi ça n'a pas avancé autant? Bah parce que forcément, dans les discussions, tu ramènes des gens qui leur intéressent et c'est clairement les énergies fossiles.
Puis tu sais pourquoi les autres pays du G20 acceptent que ça se fasse dans ces pays-là? C'est parce qu'on dépend, nous, de ces énergies-là. La Russie avait poussé cette année pour que ça se fasse en Azerbaïdjan. Puis les autres pays ont accepté, sauf que c'est fou parce que quand on sait que Elnur Sultanov, excusez-moi pour la prononciation, okay, le vice-ministre azerbaïdjanais de l'énergie, a été surpris à promouvoir les énergies fossiles avant la rencontre avec une ONG qui s'était initiée pour essayer de le tester. Puis finalement, il était tombé dans le coup, il avait essayé de promouvoir les énergies fossiles.
C'est un,
donc,
un peu insultant.
Mais oui, ça se fait dans le pays... Qui promue, en tout cas.
Comme on dit chez nous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Mais vraiment, vraiment.
Au niveau du Canada aussi, ça avait été Justin Trudeau qui avait été critiqué l'année dernière parce qu'il voulait, il y a des projets je m'en rappelle plus comment on appelle ça, mais de formation de plaques pétrolières là au large des provinces atlantiques, justement où il voulait trouver du pétrole, etc. Donc il y a clairement, j'ai pas le mot en tête depuis tout à l'heure, j'essaie de le chercher, mais il y a clairement un problème d'honnêteté dans ce genre de discussion parce que c'est juste de la représentation, mais au final on sait très bien que économiquement parlant, etc., c'est juste ça qui intéresse, genre.
Une chance que ça existe au moins quand même.
Une chance, mais heureusement, depuis qu'on en parle, depuis ça fait 70 ans qu'on parle de réchauffement climatique. C'est important d'en parler, mais les efforts sont encore beaucoup trop minoritaire comparé parce que forcément il y a des pays en voie de développement sont pas forcément quand la population de l'Inde, admettons, ou de certains pays africains luttent pour bien manger, pour avoir une vie quand même confortable, c'est normal que leur priorité soit pas l'environnement. Mm-hmm. C'est pour ça que l'effort doit venir des pays développés avec un certain un certain quand même confort de vie.
Mais c'est pas le cas. Tu parles d'hypocrisie en même
temps. Ça que je cherchais comme
tu parles d'hypocrisie, mais en même temps, les pays du G20 s'en cachent pas vraiment. Il y a eu un taux d'absentéisme énorme. Mmh. Il y a plusieurs présidents, même le Canada, Justin Trudeau, il s'est pas présenté, Macron non plus. Donc c'est quand même, il se cache pas de dire qu'il trouve qu'il y a une certaine inutilité à s'y rendre, alors que les pays du G20, c'est 80% des émissions annuelles mondiales.
Les Américains ont toujours caché aussi leur hypocrisie.
Oui, mais je pense qu'en ce moment, au niveau géopolitique, c'est vraiment compliqué. Puis aussi, d'année en année, les promesses sont pas respectées. C'est du vent, comme ils disent dans plusieurs articles. Donc, je pense que c'est une manière aussi de dénoncer que nous, si on est pour donner de l'argent, il faut que les autres pays y cumulent aussi. Ouais, vas-y.
Non,
excuse-moi, je pensais que tu avais quelque chose à dire. Mais ouais.
Mais c'est ça. Je pense que même avec l'élection de Donald Trump, ça va pas arranger les choses très clairement. Donc justement, le monde se rapproche dangereusement de ce critique de réchauffement. La COP29 rappelle une vérité essentielle. Les promesses ne suffisent plus. Seule l'action immédiate peut encore faire la différence. On va arrêter de parler des problèmes et des promesses de 2035 ou 2030. Là, c'est maintenant qu'il faut réagir. Donc rendez-vous l'année prochaine à Belém, dans le nord du Brésil, à côté de l'Amazonie, qui a brûlé ces dernières années conséquemment. C'est quand même la première réserve, la plus grande forêt au monde, donc pour la COP30, 30e conférence des parties.
Puis, peux-tu juste rajouter? Moi, j'aimerais dire là, sur un point de fin qu'on pense qu'on dépense beaucoup là, pour le climat déjà, mais en ce moment, annuellement, on dépense environ 0,2% du PIB. Je parle des financements nord-sud en moyenne, alors qu'en 2024, les dépenses militaires de l'OTAN atteignaient 2,7% du PIB. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens financiers de compenser.
Non. Les priorités sont juste pas là.
Exact. Donc, puis aussi, la demande se fait pas tout seul. Donc, voilà.
Ce que je trouve juste hypocrite, en plus, pour ajouter une dernière fois, genre, c'est que clairement, genre la priorité n'est pas là, parce qu'on se bat. Les priorités sont défense, genre sociale, etc. La guerre en Ukraine, la guerre avec Hamas, on se tape dessus parce que on n'est pas capable. Désolé, je suis un peu familier hein, en bon français. Là, on n'est pas capable de se blairer, genre clairement sur notre terre. Sauf que dans 50 ans, quand on va se retrouver avec une vague immigratoire hyper conséquente. Et qu'on ne pourra plus vivre sur nos propres terres, bah, ça va être problématique et on va se rendre compte que ça va être trop tard.
Exact.
Ben, merci tout le monde pour votre partage. Surtout merci Tristan. Après la pause, on aborde le piège de la cigarette électronique avec Maina et plus tard le festival RIDM. Pour tout de suite, on écoute Tout oublié de Angèle et Romeo Elvis.
N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier.
Angèle et son frère Romeo Elvis. Angèle qui fait fureur sur la scène francophone depuis des années. Je vous rappelle que vous êtes sur Bulle d'écoute au CISM 89.3, la radio de la montagne. Il est midi 23. Penchons-nous ensuite sur la bulle cigarette électronique avec Maina.
Comme comme dit Angèle, tout faudrait tout oublier. Si on voulait être heureux, on le serait. Est-ce que la nicotine, ça fait notre bonheur? On va en parler aujourd'hui. J'ai pensé à ça, en fait, parce que je me baladais en ville la dernière fois. Je suis allée au marché de Noël avec mon amie. Puis, soudainement, j'ai senti une odeur, mais qui ressemblait pas du tout au marché de Noël. C'était vraiment hors contexte. Pas de sirop d'érable, de gaufre, de crêpes, comme t'as l'habitude de sentir dans ton marché. Là, c'était vraiment une odeur de barbe à papa. Bien sûr, j'ai vu que c'était quelqu'un qui vapotait à côté de moi. Et là, j'ai eu ce flashback de moi qui était petite dans les rues en France, bien sûr, et entourée de fumeurs, en fait. Et ça m'a juste rappelé que à quel point ça me dégoûtait, l'odeur de la cigarette. Et puis j'avais tellement cette haine contre les fumeurs, parce que justement je savais que dès que j'allais aller dans une terrasse, dès que j'allais aller dans la rue, il y allait avoir quelqu'un qui allait allumer sa cigarette. Et puis l'odeur là, pas possible. Mais aujourd'hui, avec du recul, là je suis arrivée à un point où je suis arrivée à me dire ok, mais j'ai bien aimé le petit truc de barbe à papa, plutôt agréable comme odeur. J'aimerais bien même être à la place de la madame, parce que mais ça sent trop bon, fait que t'as juste envie d'avoir ça dans ta bouche. Mais c'est fou de se dire ça quand même. En parlant de goût, est-ce que vous saviez que les arômes de fruits rouges et mentholés sont encore plus nocifs pour les poumons que d'autres saveurs? Et c'est ce que révèle une toute nouvelle étude de l'université McGill de Montréal. En bref, l'étude a comparé les effets de la cigarette électronique aromatisée à ceux de la cigarette électronique non aromatisée.
Sur qui ont fait ça? Sur des humains, des gens qui ont été payés pour cette étude?
Non, en fait, ils ont fait ça sur des souris. Donc il y a des souris. Ouais, il y a des souris qui ont été, exposées à la vapeur des CE pendant plusieurs jours, et ils ont utilisé différentes techniques d'imagerie en fait en direct pour observer en temps réel les cellules immunitaires dans leurs poumons. Résultat, les substances chimiques présentes dans les goûts de baies, donc en fait de fruits rouges, de menthol, viennent paralyser les cellules immunitaires des poumons. Et en fait, le rôle de ces cellules à la base, c'est d'éliminer les particules nocives. Mais vu qu'elles sont paralysées, en fait, ça fait en sorte que le corps, il devient beaucoup plus vulnérable aux infections respiratoires, parce qu'elles sont pas capables de fonctionner normalement. Par contre, les vapoteuses non aromatisées, elles, n'ont pas eu cet effet. Mais chez les rongeurs testés, il y avait certaines cellules des poumons qui étaient justement incapables de fonctionner après l'exposition. Bon, après, les études, voilà, sur les vapes, les CE, il y en a eu plusieurs. On a toujours des discours qui divergent. Une fois, on nous explique que c'est une bonne alternative aux cigarettes régulières et que ça permet d'arrêter. D'autres, on nous dit que son usage est davantage toxique et nocif. À la base, si on se rappelle, ça avait été inventé pour justement aider les personnes à arrêter de fumer. Et aujourd'hui, on se bat pour que les jeunes, finalement, ne deviennent pas addicts. Comme au Québec, justement, où la décision d'interdire les gouttes vapoteuses, là, ça a été pris il y a un an déjà. Ce qui est fou, parce que ces saveurs, en fait, elles ont été conçues pour être attirantes. T'sais, qui n'aime pas l'idée d'un petit nuage de fraises, d'ananas, de fruits tropiques?
Coupable.
Ouais.
Puis c'est fou, genre, j'ai des amis aussi qui ils vont faire les efforts d'aller en Ontario pour en acheter. Là, ça n'a pas réglé le problème.
Ouais, non, vraiment, parce qu'il y en a partout. Ouais.
Vraiment. Mais justement, c'est là qu'est le problème d'ailleurs, sachant que 6 jeunes sur 10 consomment justement des arômes de fruits rouges. Mais si c'est pour mettre nos poumons KO, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On en revient toujours à l'idée, tu sais, de marketing cible qui vise cette innocence. Ça sent bon, ça a l'air inoffensif, et pourtant. Et nous, les premiers, hein, franchement, c'est pas dans l'optique d'être moralisateur, loin de là, on plaide coupable. Mais dans l'histoire, en fait, je sais pas si ce qui me choque le plus, c'est le fait d'apprendre que c'est justement ces goûts de fruits rouges sont plus nocifs que d'autres, ou si c'est le fait que ça a été testé sur des rongeurs. Parce que forcément, tu sais, les poumons d'un petit rat, d'une petite souris, sont beaucoup plus fragiles que ceux d'un humain. Les pauvres, honnêtement, ça me fait de la peine pour eux. Genre, vraiment. Mais est-ce qu'on peut réellement se fier à ces résultats? Je pense, de toute façon, c'est ce qu'on répète, et on répète depuis que les CE sont arrivés sur le marché. Mais bon. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait mieux réglementer les arômes de la veille pour protéger les plus jeunes, qui sont justement souvent les premiers à être attirés? Ou alors, est-ce qu'on laisse chacun faire ses choix en connaissance de cause, quitte à prendre des risques? Moi, je vous pose la question, puis je suis curieuse de connaître votre avis. Ça me fait rire un peu aujourd'hui. On est vraiment concentré sur les jeunes, alors que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on fait de notre vie. Mais parce que depuis justement que le Québec il a interdit les goûts, je vois de plus en plus de gens avec des cigarettes à la main. Ce qui m'a d'ailleurs choquée, hein, parce que je me rappelle, quand je suis arrivée à Montréal il y a 3 ans, c'était justement hyper agréable de pouvoir se balader dans la rue, de pas avoir cette odeur. Moi, j'étais refaite. Et puis là, justement, à partir de l'été, je me suis rendu compte que, oui, il y a les gens qui vont en Ontario pour acheter leur vape, mais il y a de plus en plus de gens qui, vu qu'ils n'ont plus accès ou ils vont pas commander sur Internet avec toutes les taxes, puis avec toutes les taxes d'importation, ils se mettent à la cigarette. Fait qu'au final, est-ce qu'on fait que reporter le problème?
Mais
tu sais, moi, si je peux dire un mot là-dessus.
Oh, ouais, vas-y.
Ben, tu dis, oui, c'est horrible de le tester sur des animaux, des rats et tout, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de problèmes liés à la vapoteuse qu'on sait pas encore qui vont se développer chez les gens, c'est sûr et certain. Tu disais que dans cette étude-là, les souris avaient de la misère avec leurs poumons, mais moi, je suis certaine là, que ça affecte, si c'est même pire que des cigarettes, là. Moi, je pense que, je sais pas comment.
Mais de la vapeur dans les poumons, là.
Puis les poumons d'un enfant.
Reste, là, je suis sûre.
Les poumons d'un enfant de 13-14 ans qui commence à vaper déjà à l'école et tout, je sais pas si c'est aussi fort qu'une.
Mais c'est parce que ces jeunes-là, ils connaissent pas l'impact non plus. Ils fument ça comme c'est cool, mais ils connaissent pas l'impact. J'ai l'impression que l'odeur de la cigarette, le s'étouffer, tu comprends un peu plus l'impact, la vape du tout, là.
Non, mais parce qu'il y a des vapes justement qui ont pas de nicotine. C'est, désolé pour le mot, mais c'est dégueulasse.
C'est plate. Mais tu sais, c'est le feeling, c'est pas le même. Ouais. Mais je pense que c'est ça le problème. C'est que ça engendre beaucoup de. Tu sais, ça, tout le monde en fume, puis c'est rendu une trend. Ouais. C'est même plus
ça, c'est même pas ce que ça fait.
Puis tu peux en fumer partout, presque.
Puis tout le monde se passe les vapes de tout le monde. Si tu oublies ta vape chez vous, hey, c'est pas grave. J'en ai trois amis qui ont la leur.
Mais j'ai l'impression qu'avec la vape. Oupsi.
C'est vraiment culturel, genre.
Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre les cigarettes et les CE dans le sens que, tu sais, mettons, pour un fumeur de cigarettes, ce qui rend addict, c'est le geste. Genre, tu sais, ils ont pas leur nicotine. Tu sais, comme, OK. Je reprends. Une personne qui va fumer une cigarette, elle va se lever le matin, c'est dans sa routine, elle va avoir envie de fumer. Il y a le geste qui va avec, il y a le moment qui va avec, c'est club café. Nous, les Français, on connaît bien ça.
Mais, oui.
Mais après, pour la CE, tu peux la fumer n'importe où, mais je sais pas si c'est le geste qui te manque. Enfin, tu sais, je pense pas que ce soit par rapport justement à cette nicotine.
Mais t'as tellement raison, c'est tellement vrai. Je me rappelle quand je fumais, c'est juste que ça me donnait un moment, mettons, en soirée pour m'isoler parce que c'était surtout au Québec parce qu'il y a moins de fumeurs. Mais c'était mon moyen d'aller me ressourcer, genre à l'extérieur, un moment à moi. Le soir aussi, d'aller fumer après le travail, c'est une façon de réfléchir, de prendre le temps de respirer, tout ça. Avoir une excuse pour aller dehors t'asseoir. Tandis que la vape, c'est tout le temps, c'est sans arrêt, c'est comme un.
Mais c'est addictant, c'est sûr.
L'affaire, c'est que le monde commence souvent pop avec ça. Il est comme, tu fumes la vape, ok, je vais essayer, puis tout. Puis un moment donné, c'est ce développement à la nicotine, de dépendance.
Ça offre même pas le peu d'avantages que la cigarette offre.
Il faut faire attention parce que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de marketing là-dessus et qu'il y a beaucoup genre de groupes de tabac, les plus gros groupes de tabac, genre Philip Morris, etc., qui luttent, enfin, qui essayent de donner une bonne image des vapes. J'avais lu que justement, Philip Morris.
Ils font des vapes, eux?
Ils font pas des vapes, mais ils ont une fondation qu'ils ont créée en 2017 et puis ils financent cette fondation-là, je crois, à hauteur de 80 milliards de dollars, un truc comme ça, pour justement financer cette association qui lutte pour, je crois qu'elle s'appelle l'association Un Monde Sans Fumée, quelque chose comme ça, puis pour financer justement l'arrêt du tabac, mais en contrepartie, du coup, elle promue des cigarettes électroniques via cette association-là. Donc, faut faire attention parce que on montre ça comme une alternative à la cigarette, mais si derrière t'as du lobbying par les grands groupes industriels du tabac, c'est que c'est pas si safe que ça, non.
Mais c'est vraiment un fléau parce que justement, on parle toujours de ce côté addictif de, tu sais, tu peux être dans ton lit, tu peux fumer, etc. Mais je reviens sur ce que tu disais tantôt, Lauriane, c'est le fait que fumer la cigarette, c'est socialement acceptable. Tu sais, si tu travailles en restauration, je vais prendre un deux, je vais fumer. On te dit, ok. Si tu dis, je vais prendre un deux pour respirer, pour prendre du temps pour toi, on va dire, te fous pas de moi, t'as des tables à servir.
Oui, c'est ça.
Genre, en termes de social, ça crée un écart fondamental.
J'ai ajouté un petit quelque chose.
Phénoménal, pas fondamental, n'importe quoi.
Tu sais, dans le temps, on parlait de la fumée secondaire avec la cigarette. Mais là, on n'aborde pas assez, je trouve, aussi la fumée secondaire de la vape. Tu sais, exemple, moi, je fume ma vape, là, à côté plein de gens. Oh, ça sent bon, OK. Mm. Tu fumes ça à côté de tes enfants. Tu penses pas à la fumée secondaire qui se rend, lui, à ses poumons.
Ouais,
la vapeur également. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, encore dans l'éducation, mettre plus d'efforts, bloquer. Hey, aller en Ontario, là, peut-être que, je sais pas, il faudrait bloquer, là.
Peut-être les grosses vapoteuses, c'est les énormes vapoteuses, là, qui sont 50% de nicotine, c'est encore plus qu'une cigarette.
Oh mon Dieu.
En tout cas, retenez, ne prenez pas des vapes aux fruits rouges. Allez prendre, si vous fumez, prenez litchi à la limite.
Arrêtez de vaper.
Arrêtez de vaper.
Puis l'ennui est pas dangereux, l'ennui, c'est dans l'ennui que tu deviens imaginatif, puis c'est dans l'ennui que tu deviens créatif. Donc, arrêtons de combler les vides avec de la dopamine facile.
Encore une fois, on parle d'ennui, hein, comme tout à l'heure.
Moi, je me pose une question. Ouais. Est-ce que tu penses que la fumée des vapes, c'est vraiment niaiseux, ce que je vais dire, mais est-ce que tu crois que ça contribue, genre, à tout ce qui est effet de serre, au réchauffement climatique?
Oh my god, je pense que nos pets contribuent plus.
Bon, j'ai le mot gaz. OK.
Oui. Merci, Annie.
OK, donc, merci pour vos partages, tout le monde. On part pour une courte pause musicale où on écoute Tune d'automne des Cowboys Fringants. Au retour, on aborde le festival RIDM avec Mélissa et Lauriane.
Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Un bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes ta maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. C'est y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, pas motivé plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé. Ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur? Ben si t'as pris le dessus. C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne.
C'était Tune d'automne des Cowboys Fringants. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait quelque chose à chaque fois que j'entends la voix de notre Carl, qui est depuis 10 jours, ben, depuis 1 an et 10 jours déjà, qui est décédé.
Ouais.
On t'aime, Carl. Bon, assez nostalgie. On parle à l'instant du festival RIDM avec Mélissa et Lauriane.
Bloup, bloup.
Oh. Les œuvres cinématographiques, c'est important. Sans culture, nos démocraties sont menacées. Mesdames et messieurs,
c'est avec beaucoup d'émotion que s'est ouvert mercredi dernier le festival RIDM, la 27e édition de la rencontre internationale du documentaire à Montréal, On est aujourd'hui mi-parcours de la programmation du festival, l'un des plus importants dans le genre en Amérique du Nord. Du moins, c'est ce que soutient Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Mais quand on voit l'ampleur du programme et de ses partenariats, c'est pas difficile à croire. En effet, c'est plus de 100 documentaires qui sont présentés à Montréal en ce moment. Des formats qui varient de 5 minutes à 3 heures, sous-titrés en anglais toujours et en français souvent. Donc à vérifier si vous allez voir et vous ne comprenez pas l'anglais. Principalement, ils sont présentés à la Cinémathèque québécoise, au cinéma du Parc et au cinéma du Musée sur Sherbrooke. Il y a aussi des représentations au cinéma Cinéplex Odéon du Quartier Latin et au cinéma Moderne, qui offre également des représentations.
Oui, puis jusqu'au 29 novembre aussi, il y a la Société des arts technologiques qui offre la projection d'œuvres immersives qui s'appelle This is not a ceremony aussi, qui est à voir. Bien.
Donc, il y a vraiment une grande variété de formats et d'expériences qui s'offrent au goût de chacun jusqu'au 1er décembre. L'édition de cette année a commencé mercredi dernier, donc avec le film d'ouverture A Preparation for a Miracle, Préparation pour un miracle, de Tobias Noël. C'est un réalisateur suisse-allemand qui a tourné pendant la crise du COVID-19. Un mix de militantisme environnemental et de l'absurde et un peu de science-fiction. Il revisite de manière différente un sujet dont on parle beaucoup, soit l'environnement, comme il le dit lui-même. Petite anecdote, moi et Mélissa, on était présentes à la soirée d'ouverture, on a vu le film, et dès le début, Tobias y a prévenu que si les gens voulaient sortir de la salle avant la fin, ils le prendraient pas personnellement parce que le film est un peu long, mais ça ajoute à l'audace de son approche, oui.
Oui, mais c'est ça, c'était vraiment bien, je trouve, de voir que les réalisateurs étaient là, mais aussi pour juste le confort des gens. Puis tu sais, c'était pas trop pris au sérieux, mais en même temps, oui, c'était vraiment une belle ambiance pour écouter un documentaire. Parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, des fois, mais...
Oui, c'est assez décontracté.
C'était fun, ouais.
Ça sort du... On peut penser que le documentaire, ça peut être niché, ou... mais non, les artistes sont hyper humbles et hyper faciles à approcher. D'ailleurs, à la fin de chaque représentation, ou presque, il y a une possibilité de parler avec les artistes. Ce premier film donnait bien le pouls de l'édition de cette année et à quoi s'attendre. Les présentateurs ont beaucoup mis l'accent sur l'aspect humain du festival et de ses visées.
Le cinéma documentaire est un puissant vecteur de sens et notre festival s'engage à vous présenter des œuvres qui racontent le monde en nous invitant également à l'engagement et à la réflexion. Ce sont des histoires qui nous unissent et nous rappelle notre capacité collective à influencer le changement. Nous sommes fiers de l'impact du festival et reconnaissants envers...
D'ailleurs, c'est pas tout, il y a eu un hommage au peuple des Premières Nations. Un des présentateurs a fait un hommage concernant que le festival a lieu sur le territoire qui appartenait historiquement et appartient peut-être toujours, c'est à la vie, à l'opinion de chacun, aux Premières Nations. Donc voici un extrait.
RIDM recognizes that we are currently assembled on the non-ceded lands of the Ganyangahaga Nation and that today the city of Montreal, Jojage or Monyang, is home to members of many First Nations peoples.
Et ce ne sont pas que des paroles vides. RIDM s'associe entre autres avec le Wapikoni Mobile. C'est un organisme de formation et de création audiovisuelle nomade qui s'adresse aux jeunes autochtones et qui contribue au développement personnel, créatif et professionnel des membres des Premières Nations. Et aussi qui aide à l'affirmation de leur communauté. Donc, les cinéastes du Wapikoni présentent 7 courts-métrages programmés en première partie des films de la compétition nationale de long métrage.
C'est quoi qui est offert exactement dans la programmation?
Eh bien, on a un volet compétition qui se divise en court-métrage et en long-métrage aussi au niveau international et national. Par exemple, on a la compétition des Nouveaux Regards qui sont consacrés aux auteurs émergents qui ont réalisé leur première œuvre documentaire. Cette fois-ci, cette compétition-là, c'est international et national à la fois. Il y a également le volet perspective qui se concentre sur 2 cinéastes et leur collectif ayant révolutionné le cinéma documentaire. On a également des panoramas sur différents thèmes et une programmation dit focus sur le Mexique.
Ouais, c'est vraiment intéressant, mais aussi ce qui est le fun, c'est qu'ils font pas juste des films. Ce qui est intéressant aussi de ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de tables rondes pour parler plus en profondeur des films. Puis ils organisent aussi beaucoup de soirées, des leçons de cinéma pour les jeunes réalisateurs et des laboratoires pour le développement créatif aussi des producteurs. C'est vraiment très interactif. Donc il y a aussi le Doc Lab Montréal qui existe, qui est pour le marché professionnel, qui va être du 25 au 27 novembre. Vous pouvez y participer si vous êtes un détenteur d'une passe Forum RIDM.
Donc, puis, au niveau des tarifs, est-ce que c'est cher?
Mais pas tant, non, parce que il y a un prix étudiant qui vaut vraiment la peine. C'est intéressant parce que c'est ça, il y a plusieurs prix. Il y a la passe RIDM et Forum qui est 270 $, mais vous avez accès vraiment à toutes les activités, sauf le face-à-face. Le face-à-face, dans le fond, c'est une activité qui est vraiment intéressante parce que... vous pouvez rencontrer des réalisateurs et des producteurs d'un peu partout. Puis, vous avez une session de speed dating pour présenter votre projet vraiment à des gros représentants de l'industrie. Mais je pense que la passe est comme 430 $, mais vous avez comme 15 minutes pour présenter ça à beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez faire beaucoup de contacts au niveau des films. C'est vraiment intéressant. Aussi, il y a la passe étudiante, mais qui coûte 30 $. Donc, ça vaut la peine pour aller voir tous les films. Vous avez juste pas accès, dans le fond, à ce face-à-face ni à la cérémonie d'ouverture et de clôture. Mais ça vaut la peine pour vrai, là, pour ceux qui font des films.
Mm-hmm. Puis sinon, il y a aussi il y a le Doc à Doc, ça s'appelle le 1er décembre, c'est le dernier, les autres ont déjà passé. C'est une rencontre entre un documentariste qui s'entretient avec un des cinéastes qui l'ont inspiré. Mm-hmm. Puis le 1er décembre, ça va être sur le thème du documentaire d'épouvante. Donc si ça vous intéresse, ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, vraiment. Puis aussi, restez à l'affût, parce que le 30 novembre, ça va être la fin du festival. Mais il y aura deux films de clôture qui s'annoncent vraiment assez émouvants et beaux aussi. Donc, il y a Voltige de Lucia Kokora, qui raconte l'histoire d'une petite fille gymnaste ukrainienne qui est arrivée à Montréal depuis peu. Puis ça montre vraiment son mode de vie avec sa famille dans un contexte d'après-guerre, qui essaie de s'adapter à Montréal. Mais ça a l'air vraiment d'être un beau film. Puis il y aura aussi le film Ninan Awasat de Kim Obam-Sawin, qui signifie Nous les enfants en autochtone. C'est un film qui suit trois groupes de jeunes originaires des nations Atikamek, Ayu et Innu. C'est des nations autochtones pour rentrer dans leur monde et voir comment que leur culture a survécu, puis comment qu'ils vivent heureux dans une génération qui prône l'amour. Donc, ces deux films de clôture qui rappellent un peu l'article dont tu parlais ce matin, Anne-Lie, ben un peu plus tôt, avec des réalités qui sont de plus en plus dures pour la jeunesse puis les enfants d'aujourd'hui, parce qu'on le sait, il y a les guerres, comme en Ukraine, il y a la technologie, puis l'isolement qui est souvent dû aux jeux vidéo puis aux réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux préoccupants qui sont mis de l'avant dans ces deux films, mais il y a aussi beaucoup de messages d'espoir qui, je pense, valent la peine d'être écoutés. Donc, pour ceux qui ont la chance d'aller les voir, je vous le conseille vraiment. Puis, Lauriane, pardon, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais pas, toi, t'as trouvé comment le film aussi d'ouverture qu'on est allé voir, mais moi, je l'ai vraiment personnellement beaucoup aimé, parce que justement, ça parlait, c'est un documentaire avec des vraies images, mais c'est quand même assez fictif, puis ça parlait comment que les humains, on devient tellement dépendants des machines. Ouais. C'était vraiment un beau film, mais c'était spécial.
Mais on dirait, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus la forme que le fond. Ouais. Le fond était vraiment très bon, mais...
Ouais, moi aussi.
J'ai trouvé ça impressionnant, parce que c'est pas un journaliste ou... tu sais, il a réussi... En fait, le film prend place, il y a des manifestations contre la coupe forestière en Allemagne.
Ouais.
Si je ne me trompe pas.
Exact.
Puis il réussit, dans ce chaos-là, il y a beaucoup de police, il y a beaucoup de manifestants, et il réussit, on finit par le comprendre dans le film, à créer un lien assez grand avec les deux parties pour être accepté des deux côtés. Puis à un moment donné, il réussit avec il y a de la machinerie pour couper les arbres, puis il réussit à s'entendre assez avec les gens de l'industrie pour qu'ils participent à son film. Et il réussit aussi avec les manifestants à avoir une ancienne grande connexion.
Il y a beaucoup d'images choquantes aussi. On voyait vraiment des vraies manifestations en Allemagne. Là. C'était vraiment assez choquant de voir comment que la police est brutale avec eux.
Ouais, alors qu'ils
essaient de protéger leur forêt. Mm. Puis dans le fond, le film, c'était un robot du futur qui vient dans le passé voir les humains pour comprendre comment qu'on en est arrivé là. Parce que dans le futur, les humains n'existent plus. C'est juste des machines. Donc en tout cas, c'était vraiment spécial comme film.
Puis le robot interprète vraiment mal tout ce qui se passe. Ouais. Maintenant, il va voir un arbre tomber, puis il va avoir un commentaire complètement naïf sur ça. Donc, c'est intéressant aussi. Ça te fait, toi, questionner comment, de l'extérieur, notre comportement humain peut être dérangeant. Mm.
Mais avant de conclure, j'aimerais vous lire aussi une phrase d'une des jeunes du film Ninan Awasa, qui va être un film de clôture. Dans le fond, elle dit « Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Toutes ces blessures-là, on les sent, mais j'espère juste que l'amour se répand dans nos communautés. C'est tout ce que je souhaite. » Donc, c'est juste pour vous montrer que les films qui ont été choisis, je pense, au festival RIDM cette année, sont vraiment remplis d'espoir aussi, puis de beaux messages.
Ouais. Justement, il y en a un que je voulais aller voir, c'était No Overland. C'est un film sur la résilience en Cisjordanie contre... contre la colonisation des Israéliens, etc. Et des colons israéliens. Puis ça avait l'air vraiment intéressant aussi. Il a été récompensé à la dernière Berlinale.
Okay. Ouais.
Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il a été vraiment récompensé beaucoup là et tout ça, mm-hmm. mais il n'y a plus de place. J'aurais conseillé d'aller le voir, mais il n'y a plus de place.
Ouais, donc, mais il y a beaucoup de beaux films à aller voir. Puis il y a une sélection vraiment immense. Là. C'est fou, là, comme toutes les œuvres qui vont passer, ben, les films. Ça vaut la peine.
Allez voir près des musées, ouais. près de chez vous, des fois.
Vous avez jusqu'au 1er décembre pour ouais. aller voir les films à l'affiche au festival RIDM. Merci les filles pour votre partage. On part pour une petite musique rapide et on revient pour un briefing de nos sujets poignants d'aujourd'hui.
Ça fait deux jours j'ai pas mangé, ça fait deux paquets de passé. Bellement le régulier, fuck pourtant j'avais arrêté. J'en veux au monde, à l'univers, mais j'arrive pas à t'en vouloir. Sur toi t'avais travail à faire, dommage que ça se fasse sans moi. Je repense à tout, je repense à nous, à chaque seconde de chaque jour. J'ai bloqué ton compte dans mon téléphone, même si chaque soir je m'y retrouve. Je pense au prochain, je sais c'est pas ça. La fille de mes rêves dans mes cauchemars, déjà mieux que rien. Oui peut-être j'ai la tristesse facile, mais au moins j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Oui peut-être j'ai la tristesse facile. Un jour peut-être je vais en guérir. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Comment la terre peut tourner sans toi? Monter si haut pour tomber si bas, viser en enfer pour avoir eu foi. Mais si c'était à refaire, oui dans tous les cas. Monter les enchères, Vincent t'inquiète pas. You're doing good, babe, manquera pas de choix. Tu m'as dit que je trouverais quelqu'un avant toi. Ça me brise de s'inventer, ok avec ça. Mais peut-être j'ai la tristesse facile, mais au moins j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Ou peut-être j'ai la tristesse facile. Un jour peut-être je vais en guérir. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Ou peut-être j'ai la tristesse facile. Mais au moins j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Ou peut-être j'ai la tristesse facile. Mais au moins j'ai la conscience tranquille.
C'était facile de les louanges. Je pense que le monde comprenne que moi, quand je suis à l'animation, je mets souvent les louanges. Je suis désolée pour tout le monde. depuis tout à l'heure, on parle des jeunes, de leur influence et tout ça. Mel, tu veux nous parler d'un nouveau programme universitaire en Australie pour devenir influenceur?
Oui, ben c'est ça. J'ai vu il y a pas longtemps. C'est peut-être pas en Australie. Je sais qu'il y a aussi d'autres pays qui veulent le faire, mais qu'il y a un programme universitaire pour devenir un influenceur supposément en Australie qui va ouvrir dans des universités. Donc je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que vous
mais le monde, on dirait qu'il s'en va vraiment vers ça. Là. Puis mais on dirait que moi, je pensais pas.
C'est un bac ou c'est un cours ou c'est un programme?
Je pense que c'est soit un certificat ou un bac, mais c'est vraiment un diplôme universitaire. Là.
J'ai vu, ils ont fait la même chose à Paris. Ils ont ouvert une école d'influenceurs et marketing.
Okay.
Puis j'ai vu aussi, il y a un nouveau cours, par contre, à Yale. On parle de...
aux États-Unis.
Ouais, comment on appelle ça? Les Ivy League. Elle offre un cours sur Beyoncé.
Oh, Beyoncé Make History, que ça s'appelle.
Ici, je vois qu'en Irlande aussi.
Peut-être que tu peux faire un angle sur Beyoncé, mais un cours, par contre. Je vois pas l'utilité, genre.
Est-ce que vous laisseriez vos enfants, genre, qu'est-ce que tu veux faire, mon chéri, ma chérie, plus tard? Je veux devenir influenceur.
Mais c'est parce qu'on prend le fait que fais ce que tu veux, ce qui va te rendre heureux, mais en même temps c'est comme on dirait que j'ai un jugement un peu par
non mais je veux dire c'est pas un jugement, c'est cool, genre tu sais si t'as l'opportunité de le faire, non. Franchement si tu peux faire, si t'as l'opportunité de faire de l'argent, parce que tu sais
c'est de l'argent facile, on dirait que de plus en plus les gens y pensent, mais
je penserais pas en bac là-dessus.
En même temps, la demande est là. Je veux dire, des influenceurs et influenceuses, il y en a de plus en plus. Autant, je me dis qu'il y a une formation, que ça se fasse de manière éthique.
C'est quoi? C'est genre faire des vidéos?
Mais je sais pas, c'est un peu comme... j'imagine que ça doit ressembler comme un peu aux journalistes. C'est comment offrir de pas faire de fake news, comment attirer l'attention tout en ne dénigrant pas une autre personne. Ouais. Je pense que ça peut être pertinent.
Parce que influenceur, ça regroupe tellement de choses. C'est juste genre très réducteur de dire qu'une formation influenceur, tu sais, genre là... Bah justement, on parlait de l'Irlande, genre l'école qui fait ça en Irlande, tu sais, t'as des formations de marketing, parce qu'en soi, l'influence sur les réseaux sociaux, c'est du marketing, beaucoup, là, avec les collaborations, etc. Il y a des cours de création vidéo, des cours d'entrepreneuriat, de psychologie, ce que tu disais, de storytelling, d'analyse de données, tu sais, c'est cool.
Mais en même temps, ils ont juste changé le nom du bac pour attirer
sûrement,
ces jeunes-là.
Ça aussi.
Sauf que là où j'ai un problème, c'est qu'il y a quand même de plus en plus des jeunes, on le dit, qui sont là-dedans, qui sont avec des technologies qui veulent devenir vraiment comme des stars ou qui veulent faire de l'argent. Puis ça, c'est pas les bonnes raisons, selon moi, pour être un influenceur. Comme prôner la surconsommation tout le temps, je trouve que c'est pas encourageant pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On essaie de réduire le plus qu'on peut tout ce qu'on achète. On essaie, mais comme alors, pourquoi encourager ça dans
les situations? T'sais? La plupart des influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont aucune formation là-dedans. Au moins, s'ils sont pour avoir une formation...
Beauté. Je trouve que ça enlève la beauté de la chose.
Permet,
parce que ceux qui ont réussi à percer, c'est grâce à leur créativité, leur organisation. Parce que tu sais, on parle quand même de montage vidéo, des heures d'organisation, de savoir organiser tes meetings et tout, ça enlève un peu de,
mais je pense,
de tout ça.
Je pense que ça prend quand même une base, une structure.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de base, puis que justement, nos jeunes.
Mais pourquoi tout le monde voudrait devenir influenceur? T'sais? Je pense pas que c'est tout le monde. Je pense que. Puis je pense que ça, le normaliser peut-être aussi.
On est rendu là, je pense.
Ouais. Mais moi, je pense que oui, mais ça doit être quand même pour les bonnes raisons. Selon moi.
Venez
nous écrire sur Instagram, venez nous donner votre avis. Est-ce que vous voudriez que votre entourage aille dans une école?
Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter, tout le monde. Merci d'avoir été avec nous encore pour Bulle d'écoute ce midi sur les ondes du CISM. Restez à l'écoute parce qu'à 13h, c'est le podcast Noir sur table avec Stéphane Souma. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site du CISM.ca. On se dit à mardi prochain, même heure. Bye bye!
Bye! Bonne journée, pas bonne soirée!
20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I send the rush, the excitement.
Salut, c'est Saratoga, vous écoutez CISM.
Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place à tes côtés sont vacants. Les jeux sont ouverts, la chance nous reçoit.
Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est Victime qui viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM.
Hey yo, c'est Dope Gang.
Dope Gang.
Vous êtes à l'écoute de CISM.
Let's go!
Y'a du lourd dans la caisse, tu veux fuck avec la game, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il colle et il shot, parce que toi, tu brites. Tu bouges pas, man. T'es sur la quête. On fout la chaîne. T'es sur la...
Tous les vendredis à 23h, CISM plonge dans les archives du festival Mutech pour vous dénicher les meilleures performances électro ayant eu lieu au festival ces dernières années. Mutech Live, l'émission où la musique électronique prend vie. Chaque vendredi à 23h sur CISM.
Salut, c'est Chose Sauvage. Vous écoutez CISM 89.3.
Je vais aller chez nous, j'en venais, parce que j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait que, faites ce que vous voulez en attendant.
Oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal?
Je vais essayer de pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
T'as-tu aimé ça, la tempête de neige, puis l'énergie rock, là? À matin, il me semble que ça plaît.
Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les mercredis.
Oh, là-dessus, la pub, c'est correct, gars?
Yo, 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 Montréal.
La nuit, c'est pas. Prends toujours un micro pour la vie. 2 heures de marde.
Ici Alex Ferns, vous écoutez CISM.
Ici Mademoiselle Philippe, animatrice du balado d'un album à l'autre dans lequel on découvre l'évolution d'artistes de la chanson par le biais de leur discographie. Les mardis à 15h sur les ondes de CISM, j'ai la chance de vous présenter quelques extraits de mes entretiens. Donc, soyez au rendez-vous. À bientôt.
Écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.